16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre pour 2 heures d'histoire divertissante que vous n'êtes pas prêts d'oublier aujourd'hui, une émission magique en perspective et au premier sens du terme. Puisqu'en effet, nous allons vous parler cet après-midi, avec des musiques de qualité, vous l'entendez, des plus célèbres magiciens de l'histoire. Par leurs tours et leurs illusions, ils ont captivé les foules, mais moi aussi je peux le faire. Roulement de tambour en régie. Sous vos oreilles ébahies, chers auditeurs, je vais maintenant faire apparaître pour vous Stéphane Bern. Je sors ma baguette magique. 3, 2, 1, le voilà! Bonjour Stéphane Bern!
Bonjour Mathieu, mais il manque la moitié du corps. Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Stéphane?
Vous m'avez coupé en deux. Bonjour à tous, je suis en mesure de vous promettre une chose. Les magiciens dont nous allons parler aujourd'hui sont quand même beaucoup plus doués que vous.
Mais ce ne sera pas très difficile.
Alors, on va commencer par l'un des pionniers. Jean-Eugène Robert Houdin, inventeur de génie, est l'un des pères de la magie moderne. Et puis, je vous raconterai l'histoire de Harry Houdini, qui a volé son nom à notre
maintenant,
français.
Maintenant, vous allez vomir quand vous le dites, ça fait très très peur.
Il y avait des
trucs arabes un peu dans son...
Calmez-vous quand même sur l'accent anglais. Harry Houdini, quoi.
Ouais. Oui, Harry Houdini, quoi. Un nom associé pour toujours à l'un des plus grands magiciens de tous les temps. Sa spécialité... l'évasion, vous verrez.
L'évasion quant fiscale, à vous, comme vous.
Non, oh ben, je n'ai pas la chance d'être suisse comme vous. Quant à vous, Mathieu, avant de vous échapper, vous nous parlerez d'un magicien plus contemporain.
Oui, Stéphane. David Copperfield, il a réussi les tours les plus dingues, faire disparaître la statue de la liberté, voler avec un piano, et même, sa personne n'a compris comment il avait fait, pécho Claudia Schiffer.
Enfin, j'ai toujours eu des doutes.
C'est-à-dire, vous nous en parlerez.
Oui, il y avait l'idée que c'était un mariage arrangé pour faire la carrière de chacun.
Vous en parlerez, mais moi, je crois à l'amour.
Je pense que c'était... Honnêtement, c'était de l'escamotage.
Oh, vous salissez tout.
Non, c'est vous. C'est pour cette spéciale magie, un invité spécial cet après-midi. L'illusionniste et humoriste immense, il est très très grand. Éric Antoine sera avec nous.
Avec nous également, comme chaque après-midi, nos magiciens de l'histoire. Des chroniqueurs désormais soudés comme les trois doigts de la main de Maître Yoda ou comme les trois mousquetaires qui auraient été trois pour de bon. Entre eux, c'est un pour tous et tous pour un. Par exemple, le jour où l'un d'entre eux a un sujet un peu moins fort que les autres, eh bien, les autres le soutiennent quand même, faisant semblant de trouver ça génial. On l'a vécu dernièrement avec un sujet de David Castello-Lopez, écoutez.
Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des origines du type Tipex.
Ah, super.
Ouais, attention quand même, ce ne sont pas trop gros non plus. Hein. Ah, super. Quand on annonce qu'on va faire 7 minutes sur le Tipex, on sent la magouille. Hein. Bonjour Clémentine Portégal.
Non, mais pas du tout. Moi, je suis une fan inconditionnelle des chroniques
de nous.
Tout comme tout le monde.
Clémentine, vous nous entraînez toujours dans l'intimité des grands de ce monde.
Bah oui, mais alors là, écoutez, j'adore le fond sonore. Là, parce que si vous saviez de quoi je vais vous parler, vous parlez.
Oui, je sais.
Ah bah voilà. Donc moi,
vous allez nous guérir.
Oui, vous parlez de magie, moi je vais vous parler de miracles. Hein, parce qu'entre le 11e et le 19e siècle, tous nos rois étaient thaumaturges, c'est-à-dire qu'ils étaient guérisseurs. Et ils avaient le pouvoir de guérir les écrouelles et devaient participer à des séances d'imposition des mains qui pouvaient durer des journées entières. Donc vous allez voir, à côté de ça, les séances de poignée de main de nos présidents au salon de l'agriculture, c'est vraiment une promenade
de santé. Il
n'y
avait pas beaucoup de distanciation sociale à l'époque. Le roi te touche, Dieu te guérit.
Exactement.
Tripotait des bubons toute la journée.
Oui, toute la journée. C'est ça.
Il vient de nous parler des bubons qu'il tripote. David Castello-Lopez est avec nous également. Chaque jour, l'origine d'une invention.
Oui, et aujourd'hui, vous savez, c'était la seule façon de prendre des photos sans les faire développer par quelqu'un avant.
C'était génial.
C'était le Polaroid.
Bien sûr.
D'où ça vient le Pola. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est devenu? Je vais vous dire ça.
J'en ai racheté un là.
Voilà.
Vous êtes vraiment un bobo, Stéphane. Ça revient dans les quartiers bobos des grandes villes. Et enfin, il est avec nous également. C'est notre spécialiste art de vivre, art de la table, Olivier Pouls.
Et qu'est-ce qui se passe tous les troisièmes jeudis du mois de novembre que normalement nous pourrions fêter ensemble, les amis, si nous n'étions pas confinés?
Il y a la vente des hospices de Beaune, mais qui a été reportée.
Oui, mais sinon, il y a le
Beaujolais nouveau.
Alors là, évidemment, c'est-à-dire d'un côté ceux qui peuvent se payer les hospices de Beaune, le réflexe, et les gens normaux, Stéphane, qui nous écoutent et qui, eux, aiment le Beaujolais nouveau, Stéphane. Je vous ferai goûter. Vous verrez, c'est différent.
On parle du dernier millésime qui vient d'arriver, puis on remontera aux origines de cette tradition. Pourquoi le troisième jeudi du mois de novembre?
Pourquoi donc cette date? Et surtout, est-ce que le Beaujolais nouveau peut être bon?
Oui, bien sûr qu'il peut l'être.
Ah oui, il s'améliore quand même au fil des années.
On va essayer de casser aussi cette image que c'est forcément de la piquette imbuvable.
Je n'ai pas dit ça, je dis juste que ce n'est pas censé être un très grand vin, quoi, mais ça peut être sympa.
Il faut le prendre pour ce qu'il est.
Il faut le prendre pour ce qu'il est, voilà, un beau compliment. C'est très très beau. Enfin, n'oublions pas Stéphane, votre moment préféré, Born to be Alive. Le quiz qui vous oppose chaque jour à Clémentine et à l'issue duquel vous exclamez souvent Mais tout de suite, plongeons dans notre premier portrait de magicien du jour, le plus célèbre illusionniste français du 19e siècle, les amis. Il était si fort qu'il aurait pu faire passer Olivier Pouls pour un végétarien. Son nom, Jean-Eugène Robert Houdin.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Personnellement, je suis assez nul en magie. Heureusement, Stéphane Bern, lui, est un maître de l'illusion, puisque vous avez réussi, me disiez-vous Stéphane, à faire un éléphant en ombre chinoise à votre petit-neveu avec vos doigts. Il est donc normal que ce soit vous qui nous racontiez l'histoire de votre éminent collègue, si j'ose dire, l'illusionniste Jean-Eugène Robert Houdin.
Ne me flattez pas, c'est inutile, mon cher Mathieu, mais c'est vrai, ce premier magicien que nous évoquons cet après-midi a bien failli ne jamais monter sur scène de sa vie, pour la bonne raison que son horloger de père avait plutôt dans l'idée d'en faire un notaire. Mais le jeune homme n'avait pas la moindre intention de passer son existence à gérer des engueulades entre héritiers mécontents. Non, Jean-Eugène Robert, qui est né du côté de Blois en 1805, a très vite su ce qui l'intéressait dans la vie. À force de traîner dans l'atelier d'horlogerie de son père, il se prend très tôt de passion pour tout ce qui touche au rouage et au joyeux cliquetis d'une mécanique bien huilée. Sa curiosité s'étend au-delà d'ailleurs. Le jeune garçon s'intéresse à la science sous toutes ses formes, de la chimie à l'électricité. Jean-Eugène se penche aussi de près sur ce qu'on appelle, pas encore la prestidigitation, mais l'escamotage. Sa ténacité finit par convaincre son père qu'il a trouvé sa voie. Et voilà comment Jean-Eugène se retrouve en 1830 à Paris, chez un horloger réputé, Jacques Houdin. Il faut croire que le jeune homme ne passe pas tout son temps à bricoler parce qu'il tombe amoureux de la fille de l'artisan, Cécile Houdin.
On peut faire les deux, Stéphane.
En tout cas, il bricolait assez bien. Le mariage vient vite, les enfants suivent et Jean-Eugène Robert y gagne un nouveau nom en ajoutant le nom de sa femme au sien. Il devient Jean-Eugène Robert Houdin, le père de la magie moderne. Mais avant d'être magicien, c'est comme inventeur qu'il se fait connaître. Jean-Eugène a toujours mille idées en tête, le réveil briquet par exemple, son premier brevet qu'il dépose en 1837. À première vue, un réveil comme les autres, mais il suffit de le régler à sa guise et hop, à l'heure fixée, la sonnerie retentit et une bougie sort du cadre, déjà tout allumée, pour procurer de la lumière en se réveillant.
Bah, une bougie, ça éclaire pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était un briquet, genre, et c'était sous les fesses, et hop, comme ça claque quand on se réveille, une petite flamme, et hop, là, on se réveille vraiment si on est brûlé.
Non, je vois vos fantasmes, mais c'est pas du tout ça. Alors, ça, c'était sa première invention. Il y en aura bien d'autres plus tard et tout au long de sa vie, dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui, comme le plastron électrique dont on équipe les joueurs d'escrime pour vérifier qu'une touche a bien été portée. Ou encore le taximètre. Vous savez ce compteur qui permet de savoir combien on doit au chauffeur de taxi? Eh ben oui, c'est lui. Toute sa vie, Robert Houdin collectionne les récompenses, les brevets et les médailles aux expositions. Mais son grand truc, comme disent les magiciens, ce sont ces automates dont la qualité extraordinaire ridiculise la concurrence. Le joueur de gobelets, le danseur de cordes, les oiseaux chantants, un de ses modèles les plus célèbres, l'écrivain-dessinateur capable, comme son nom l'indique, d'écrire et dessiner, est acheté $4000 par le génie américain de l'entertainment, Phineas Barnum, en personne. Vous savez, celui qui avait aussi embauché les frères siamois Heng et Chang Bunker, dont je vous avais parlé il y a quelques temps déjà.
Je m'en souviens, Stéphane.
Oui, mais c'est gentil. La magie pour Jean-Eugène Robert Houdin opère lorsqu'il réalise un vieux rêve. Marier la science, la mécanique et le spectacle pour sidérer le public en réalisant l'impossible sous ses yeux. Il monte son salon de prestidigitation rue de Valois, près du Palais Royal à Paris, en juin 1845, et offre au public des soirées fantastiques. Chaque mur, chaque recoin, chaque fauteuil cache une trappe, une mécanique, des fils, des piles, des ressorts, des câbles, un truc quoi. Tout est truqué, même le piano de l'orchestre. Là, tous les soirs, devant 225 personnes à chaque fois, Jean-Eugène Robert Houdin révolutionne l'art de l'illusion. La magie de Robert Houdin, C'est une magie de haute précision, minutée, minutieuse, mise en scène dans le moindre détail. Une magie joyeuse et drôle, pleine d'humour et de poésie. Fini tout le fatras mystique de ses prédécesseurs, les pentacles, les têtes de mort, les costumes de mages et d'alchimistes, pourtant bien pratiques avec leurs grandes poches. Quand Robert Houdin entre en scène, c'est un gentleman, une simple baguette à la main et en habit de soirée. Derrière, c'est une série époustouflante de tours, de sketchs, de démonstrations auxquelles viennent assister un public fasciné qui a réservé sa place des mois à l'avance. Sur scène, on retrouve ces automates, le hibou fascinateur, le buveur, le petit arlequin, la guirlande de fleurs, le grimacier chinois ou encore le pâtissier du Palais Royal, un petit marmiton qui s'agite dans une maison de poupées avant d'en sortir une confiserie bien réelle. Et puis, il y a ces grands tours, ceux qui font très vite sa réputation, mais aussi sa fortune. Le plus fameux de ces tours, c'est l'oranger merveilleux. Sur une table, Robert Houdin place un œuf, un citron et une orange. Il emprunte un mouchoir dans le public. Le mouchoir disparaît dans l'œuf, qui disparaît dans le citron, qui disparaît dans l'orange. Vous m'avez suivi ?
Oui, mais il y a un truc.
Il n'en reste bientôt qu'une poudre que le magicien répand autour d'un oranger qu'on lui amène sur scène, sans fruits et sans feuilles. Robert Houdin fait mine de tirer un coup de revolver sur le petit arbuste. La poudre prend feu. L'oranger se couvre de fruits qu'il jette au public pour prouver qu'il s'agit bien de véritables oranges. Robert Houdin en attrape une et l'ouvre. Le mouchoir est bien là, trempé de jus d'orange. En 5 ans, Robert Houdin fait fortune. Il attire aussi les plus grands, de Théophile Gautier jusqu'au roi des Français, Louis-Philippe, qui s'offre sa propre loge et invite aussi Robert Houdin à se produire chez lui pour une représentation exceptionnelle. Pendant la Révolution de 1848 devenue célèbre, Jean-Eugène Robert Houdin part en tournée en Belgique, puis à Londres. Imaginez-vous, il joue au St. James Theatre, mais aussi à Buckingham Palace devant la reine Victoria, qui le sollicite en personne, et par 2 fois, hein, pour une représentation, tout ce qu'il y a de plus privé. Les mois passent et la fatigue se fait sentir. Robert Houdin vit entre Paris et sa propriété à côté de Blois, baptisé le Prieuré, mais vite surnommé l'abbaye de la Trappe. Pourquoi ? Parce que Robert Houdin en fait une maison intelligente avant la lettre, bourrée de commandes électriques qui lui permettent d'attraper ses visiteurs. Les portes s'ouvrent toutes seules, des voix sortent des murs, un faux jardinier se met soudain à ratisser le jardin et des inscriptions lumineuses apparaissent sur les murs. Toujours entre 2 trouvailles, Robert Houdin coule au prieuré des jours heureux, dans une semi-retraite toujours aussi inventive. Mais il ne le sait pas encore ce qu'il attend pour une dernière tournée en 1855.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comme par magie, cet après-midi, on réunit, sans trucage, des magiciens. Mais plus qu'un magicien, Jean-Eugène Robert Houdin est aussi un inventeur de génie, passé maître dans l'art de l'automate. Vous nous avez laissé, Stéphane, au moment où Robert Houdin, éloigné du monde du spectacle, retiré dans sa maison truffée d'inventions, va devoir ressortir de chez lui.
Oui, Mathieu. À 50 ans, Jean-Eugène Robert Houdin va se mettre au service de Napoléon III. Et oui, pour une mission, vous allez le voir, très politique. En 1855...
Le transformer en Napoléon I.
Non. En 1855, la conquête de l'Algérie est bien entamée, mais des troubles compliquent encore l'installation des colons. Vous allez me demander ce que vient faire un magicien dans cette galère, Mathieu.
Je peine à comprendre.
Et à première vue, on peine en effet à faire le lien. Eh bien, ce qu'attend l'empereur, c'est une opération de propagande. Depuis Alger, on lui a fait part de l'influence des marabouts sur la population algérienne. Les marabouts, vous le savez, ce sont ces personnages très respectés pour leur sagesse et leur savoir, mais aussi pour leur réputation de mage. Beaucoup d'Algériens écoutent ces hommes qui cultivent une forme de magie ésotérique et qui parfois incitent à la rébellion contre les Français. La mission confiée à Jean-Eugène Robert Houdin est simple. Discréditer les marabouts en montrant que sa magie est plus puissante que la leur. Et voilà comment le magicien quitte la Loire pour une drôle de tournée d'adieu qui frappe les esprits des Algériens avec des tours comme celui de la balle magique. Vous le connaissez forcément, c'est celui qui consiste à se faire tirer dessus avant de stopper la balle entre ses dents.
Ah oui.
Et ce tour marche parce que la balle retenue par un aimant n'a jamais été placée dans le canon par Robert Houdin, qu'il a discrètement planqué sous sa langue avant d'aller se placer. Est-ce que l'opération imaginée par Napoléon III a marché? C'est dur à dire, même si l'influence des marabouts a effectivement commencé à se diluer. Mais une chose est sûre, Jean-Eugène a gagné une forme de respect. Après son dernier spectacle à Alger, des dignitaires algériens lui ont offert un poème calligraphié en deux langues qui disait ceci: « À un marchand on donne de l'or, à un guerrier on offre des armes. À toi, nous présentons ce témoignage d'admiration que tu pourras léguer à tes enfants. » C'est la dernière tournée publique du vieux magicien qui ne remettra cette fois plus les pieds sur scène jusqu'à sa disparition, malheureusement sans trucage, en 1871, qui vient clôturer une vie de magie. Une vie qu'il a lui-même racontée dans ses mémoires, où il dévoile aussi ses méthodes pour le plus grand bonheur des magiciens encore aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Eugène Robert Houdin, c'est la magie du téléphone. Nous sommes avec le magicien et humoriste Éric Antoine. Bonjour Éric Antoine.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane,
bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, où êtes-vous caché Éric?
Eh bien là je suis à Aix-en-Provence auprès de mes enfants, voilà.
Ah, vous êtes confiné à Aix-en-Provence.
Alors, je passe une moitié de mon temps à Paris où je travaille, où je suis en train de développer un nouveau show, un show digital pour survivre à cette pandémie et proposer quelque chose qui utilise vraiment finalement les limites de ce temps et d'en faire quelque chose, d'en faire une œuvre un peu plus créative. Et puis de l'autre côté, je m'occupe de mes enfants à Aix-en-Provence. Donc voilà.
Bon, il faut le dire, Éric Antoine, c'est vrai que vos spectacles sont pour l'instant mis entre parenthèses, mais on peut vous voir à la télé tous les mardis soir sur M6, oui. Puisque vous êtes membre du jury de la France, un incroyable talent. Alors, vous, votre incroyable talent, c'est quoi?
Je crois que ce qui m'a différencié, par exemple, on parlait de la révolution qui a été Jean-Eugène Robert Houdin, ce qui m'a différencié, c'était le fait d'amener humour et magie, de faire une nouvelle écriture, d'être aussi bien humoriste qu'un magicien, et donc finalement de moderniser aussi une écriture qui était un peu restée à l'époque victorienne, qui est un peu notre musée de la magie, qui est le grand moment de la magie autour du monde, et beaucoup de magiciens étaient un petit peu enfermés dans cette histoire finalement.
Mais Éric Antoine, quand vous parlez de cette nouvelle forme d'écriture qui mélange la magie avec l'humour, il y a de nombreux magiciens qui ont suivi votre voie ou pas? Parce que ça paraît tellement compliqué. Enfin, déjà, faire de la magie tout seul, c'est de l'illusion, c'est déjà tellement compliqué, tellement précis, tellement technique. Y rajouter de l'humour, il faut quand même, quand on parlait de votre talent à vous, il faut quand même un talent assez inouï pour associer les deux. C'est pas juste une idée, il faut le faire, quoi. C'est compliqué.
Quel flatteur ce Mathieu.
Mais, il ferait pas ça avec moi. Hein.
Mélanger deux choses qui sont aussi techniques et qui nécessitent un tel rythme, c'est vraiment
en
dur.
En fait,
quoi.
C'est vraiment intéressant parce que ce sont deux écritures qui sont quasiment antinomiques. En fait, quand on va voir un magicien, on est toujours en train de se demander comment a-t-il fait ? Et on est toujours en train de regarder vers le passé. Oui. Alors quand on écoute un humoriste, on écoute, on rit, et tout de suite on se tourne vers le futur pour ne pas louper la prochaine vanne. Donc il y a quelque chose presque en dichotomie finalement pour le spectateur dans ces deux arts. Et la magie demande ce fameux mot qu'on utilise beaucoup les magiciens, le prestige, c'est-à-dire un sérieux pour amplifier l'effet magique et que le dernier effet soit vraiment extrêmement spectaculaire et pris de la plus grande manière émotionnelle. Alors que le rire, finalement, c'est une manière de faire tomber l'émotion continuellement, puisqu'à chaque fois qu'on rit, on refait tomber l'énergie. Donc il y avait quelque chose d'assez paradoxal et en même temps qui rend cette double écriture intéressante, c'est que elle te tire dans deux directions qui paraissent opposées, mais qui finalement sont toutes les deux des émotions de spectacle. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir justement à marier les deux. Mais ce qui était rigolo et dur, c'est que quand j'ai commencé à proposer ces spectacles, les magiciens disaient que j'étais un humoriste, les humoristes disaient que j'étais un magicien, et ni l'un ni l'autre de ces familles ne voulaient de moi dans leur famille. Et aujourd'hui, les deux familles me revendiquent comme étant un des ambassadeurs de leur famille.
Ce qui est bon signe. Mais Éric-Antoine, moi je vois une vraie filiation avec Jean-Eugène Robert Houdin, dont j'ai raconté le destin.
Oui, vous avez magnifiquement bien raconté d'ailleurs, Stéphane.
Mais ça,
le flagorneur aussi.
Tu m'étonnes. Non, mais il est bon, il est bon.
Ses mémoires, vous les avez lues, vous
oui.
aussi, parce que
oui,
il
oui,
fait
évidemment.
Partie, j'imagine, des magiciens qui, d'une certaine manière, vous ont inspiré. Je racontais l'histoire de Laurent G, mais c'est plein de poésie, et vous avez ça aussi.
J'aime beaucoup la poésie, parce que c'est inhérent à notre art. J'aime toujours cette phrase, la magie, si on parle un peu la langue des oiseaux, c'est l'âme qui agit. C'est donc dans notre métier magique, il y a une partie évidemment complètement féerique. Ce qui était vraiment formidable avec Houdin, c'est l'inventeur, c'est-à-dire son savoir en dehors de l'art magique intrinsèquement. C'est-à-dire qu'il a vraiment amené, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes magiciens, mélangez vos connaissances. Ne soyez pas que magicien, soyez musicien et magicien, soyez acteur et magicien, soyez auteur et magicien, soyez metteur en scène et magicien. Et c'est ça qui fait vraiment la singularité d'un artiste.
Éric-Antoine, on va continuer à parler des grands magiciens de l'histoire, de la légende de Jean-Eugène Robert Houdin en particulier, avec vous, immense magicien, Éric-Antoine, qui nous accompagne cet après-midi sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Comme par magie, c'est notre thème cet après-midi dans Historiquement Vôtre. On part à la rencontre des plus grands magiciens de l'histoire. Parmi eux, un des pionniers de l'illusion en France, le magicien Jean-Eugène Robert Houdin. On en parle avec Éric-Antoine. Éric-Antoine, est-ce qu'on peut vraiment qualifier déjà Robert Houdin de père de la magie moderne ou est-ce que c'est un peu exagéré?
Non, c'est vraiment historiquement prouvé. Il a créé énormément d'illusions qui sont restées vivantes pendant 150 ans et dont certaines sont encore jouées aujourd'hui. Il a été vraiment au croisement, comme on a pu avoir à plusieurs moments à Paris. Tout d'un coup, tous les artistes se rejoignent à Paris. Et là, c'était un grand moment pour les inventeurs et pour les artistes à Paris. Voilà, c'est le milieu du 19e siècle, assez phénoménal.
Est-ce que Robert Houdin, il a vraiment révélé ses méthodes, ses tours de magie? Un magicien qui dévoile ses trucs, c'est interdit, non? Enfin, c'est un code de l'honneur du magicien, non?
Alors, c'est marrant parce que dans l'histoire, il y a toujours eu tout d'un coup, des magiciens qui se sont mis à dévoiler énormément de choses. Et puis, de toute façon, maintenant, le secret n'existe quasiment plus. On peut trouver quasiment tous les secrets de magie sur Internet. À son époque, il y avait énormément de parutions. Et puis, la magie était copiée, puisqu'il y avait aussi, pas du tout le système de droit d'auteur qu'on avait aujourd'hui, les illusions d'Houdin étaient copiées en Angleterre par Herman, qui était un de ses concurrents, aux États-Unis, enfin, dans le monde entier, et les gens s'attribuaient les inventions de Robert Houdin. Donc finalement, de les dévoiler...
Aujourd'hui, il y a un copyright, on peut déposer un tour de magie?
Mais le problème, c'est que finalement, le plus important pour le spectateur, c'est pas la méthode, c'est l'effet, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est l'émotion. Donc, protéger un effet quasiment impossible. Le piano volant était une histoire très fameuse en France, dont l'inventeur a été débouté par l'utilisateur. Donc il y a malheureusement aucun moyen de protéger. Même nous, on fait des dépôts INPI, plus des dépôts aux sociétés d'auteurs de spectacles, mais on ne peut pas protéger un tour complètement, c'est impossible.
Alors Éric-Antoine, nous, qu'on soit bluffé, c'est une chose, mais est-ce que vous, entre magiciens, vous vous bluffez? C'est-à-dire, est-ce que quand vous allez voir un confrère, vous êtes parfois surpris, ou quand on est à votre niveau, on détecte tout de suite comment est fait un tour?
À 90%, je détecte comment est fait un tour.
Ouais.
Et puis, de temps en temps, je me prends une petite claque sur le bout du nez. Beaucoup de jouissance, parce que je me dis « Oh, mais comment a-t-il fait ?»
Ça fait du bien.
Moi, ça m'est arrivé, par exemple, à Copperfield, il y a quelques années, de ne pas comprendre un tour et d'en avoir vraiment aucune idée. Et j'ai mis, trois mois à peu près à faire une espèce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire de vraiment remonter le tour à l'envers, de se dire comment est-ce qu'il a fait étape par étape.
Ah oui, comment c'est né?
Comment est né? Parce que souvent, en fait, quand on voit un tour de magie, quand quelqu'un te le raconte, il ne raconte jamais vraiment ce qui s'est passé. Et il y a toujours comme ça, entre le tour et ce qu'on raconte ensuite du tour, une différence assez conséquente. Donc souvent, nous, les magiciens, on essaye de voir plusieurs fois le tour pour vraiment décortiquer, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé.
En même temps, pour nous, public, il faut que ça reste magique et qu'il y ait une part de mystère et d'inconnu. En tout cas, Éric-Antoine, on va continuer à parler de magie avec vous, puisque je vous raconterai dans un instant le portrait d'un autre magicien. Celui-là est américain, peut-être le plus connu,
oui.
Harry Houdini.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, elle est à la fois historienne et détective privée. Elle a surpris des rois dans la couche de leur maîtresse, des cousins dans les lits de leur cousine. Une fois la même surprise, Stéphane.
En flagrant délit, dans le bois de Boulogne.
Bref, vous l'avez compris, Clémentine Portier-Cattelmac nous entraîne dans l'intimité de l'histoire avec un grand H. Elle n'a toujours pas de mandat, mais elle s'en fout.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Voici maintenant Clémentine Portier-Kaltenbach.
Sous vos applaudissements.
Ah, oh, si seulement.
Très bien.
Ah, merci, très bien, merci Stéphane. Si seulement j'avais le secret de la guérison des écrouelles, bah, peut-être que je serais riche aujourd'hui.
Enfin, vous seriez encore que... reine surtout.
Alors oui, parce que pendant 800 ans quand même, les rois de France ont été réputés investis du don de guérir les écrouelles.
Que sont les écrouelles?
Alors, je vais vous expliquer
vous
ça.
Vous dites tout ça.
Je vais vous expliquer ça naturellement. Hein. En tout cas, c'est cette idée que les rois pouvaient avoir un pouvoir de guérisseur, elle a été empruntée aux Germains. Parce que dans une tradition très ancienne, on pensait que les hommes puissants avaient aussi des pouvoirs miraculeux. Bon, et c'est arrivé jusqu'à chez nous. Ça apparaît donc sous les Capétiens au début du 11e siècle. Et le premier à avoir eu ce pouvoir-là, c'était le fils d'Hugues Capet. Vous voyez, tout le monde voit qui était Hugues Capet.
Ah bah
donc
oui.
C'est le premier roi guérisseur, c'est Robert
987.
Le Pieux. Et c'est lui qui fait de cette pratique un don héréditaire. Et nous savons tout cela grâce à qui? Grâce à un gars dont j'aime bien le nom. Il s'appelait Ego de Fleury, mais on le dit aussi Elgadius. Elgadius, c'était donc le chapelain de Robert le Pieux. Ça, souvenez-vous de ça, hein, ça peut faire bien dans un dîner. Oui, quel
désir. Oui, mais...
Elgadius, chapelain de Robert le Pieux. Ah ouais, la classe. Bon alors, donc voilà ce que nous disait Elgadius. Oui, moi je m'en souviendrai parce que ça me fait penser à Gadin, la Gadou, tout ça. Elgadius, chapelain de Robert le Pieux. Alors, Robert le Pieux, ayant, oui, la grand-messe, largesse, jeta au gueux des pièces d'argent. Puis il redonna la vue à un aveugle, après quoi il guérit lépreux et scrofuleux, sans dégoût ni crainte de la contagion. Donc c'est Robert le Pieux qui fonde une véritable dynastie de rois médecins. Après lui, écrit Marc Bloch, les descendants revendiquent à titre d'héritage le privilège paternel. Ils touchent et marquent du signe de la croix tous les pauvres gens victimes de maladies. Et ce pouvoir provient non pas des mérites du roi tout seul, mais de sa fonction royale. Il guérit parce qu'il a reçu l'onction, il a été sacré, il est loin du Seigneur. C'est ce qui a déclenché ce don en lui. Alors cette guérison royale va devenir une coutume avec des gestes et des mots qui ne varieront guère jusqu'à l'écroulement de la monarchie. Stéphane nous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, le roi te touche, Dieu te guérit. Alors comment ça se passait concrètement? En fait, il y avait toujours un médecin, le médecin du roi, qui se plaçait derrière les malades, il leur tenait la tête avec les mains, et puis il y avait un garde qui obligeait le malade à garder les mains jointes, à la fois en prière, en somme, mais aussi pour éviter qu'il sorte un couteau,
oui,
qu'il n'estourbisse le roué, vous comprenez? Bon, alors,
oui.
Le roi touchait le visage des malades de la main droite, signe de croix, du front jusqu'au menton, et ensuite, évidemment, d'une oreille à l'autre, si l'on veut, en répétant cette formule qui va guère changer avec le temps. Alors, au départ, les rois sont des médecins généralistes, ils peuvent absolument tout soigner. Et il y a tellement de malades qui sont obligés de se spécialiser. Et finalement, au bout d'un moment, on dit non, bah, écoutez, le roi, là, il a pas que ça à faire, il va guérir uniquement les écrouelles, sinon il y avait trop de monde. Alors, les écrouelles, maladie répugnante et très fréquente au Moyen-Âge, qui se manifeste sous forme de plaies absolument hideuses sur la face et surtout dans le cou, dont les suppurations répandaient une odeur fétide. On appelle ça la scrofule. C'est une inflammation des ganglions.
C'est complètement disparu, ça.
C'est d'origine tuberculeuse. Non, non, ça existe vaguement encore. Ah, enfant, c'est de la soigner. Pourquoi scrofule? Parce que scrofule, ça vient d'un mot latin, scrofa, en latin la truie. Hein, c'était le symbole de la saleté. Évidemment, on y donne un nom, on donne un nom féminin, parce que
ça.
La truie, la saleté, ça aurait pu être le cochon, mais non, c'est la truie strofa.
La crasse,
alors,
oui,
et au Moyen-Âge, la population en est infectée, mais parfois, au miracle, les malades touchés par le roi guérissent miraculeusement. Il faut donc organiser, ritualiser ces moments de guérison par le roi. Dès que le roi était sacré, il devait aller à Saint-Lô, parce que c'est là que se trouvait la tombe de Saint-Marcoul, le patron des écrouelles. Alors, il devait prendre la statue entre ses mains et pouf, hop, après, ça y est, il avait le pouvoir de guérir les écrouelles. Alors, au début, la cérémonie avait lieu que les vendredis saints. parce que c'est le jour d'agonie du Christ, donc c'est vraiment un jour propice au soulagement des souffrances humaines. Mais il y avait tellement de monde qu'on vient à organiser ça à Noël, à Pâques, à la Toussaint, à la Chandeleur. Il y a tellement de scrofuleux que votre grand copain Louis X, le hutin que vous aimez tant, Mathieu,
oui.
Lui, il guérissait les écrouelles une fois par semaine. On venait de toute la France, on venait de l'étranger pour être touché par le roi. Alors, François Ier, jour de l'Assomption 1527, touche plus de 1500 malades. Louis XIII, alors qu'il a 9 ans, petit garçon, hein, en 1610 pour la fête de Pâques, touche 3125 de ses sujets à qui il administre comme ça un signe de croix. C'est évidemment une cérémonie absolument épuisante et puis il a beaucoup de mal à surmonter sa fatigue et son dégoût. Est-ce qu'on imagine un président de la République serrer 3125 mains dans la journée? C'est aberrant.
En plus des mains dégoûtantes.
En plus des mains dégoûtantes. Alors Louis XIV, alors même qu'il est atteint de la gangrène qui l'emportera 3 mois plus tard, il touche 1700 scrofuleux pour la Pentecôte dans une chaleur atroce. Louis XV impose les mains sur 2000 malades après son sacre et Louis XVI, 2400 malades. Mais là, c'est déjà l'influence du rationalisme et des Lumières. Donc, on commence à être un peu dubitatif. Donc, la formule change et la formule devient le roi te touche, que Dieu te guérisse. C'est-à-dire qu'on laisse quand même à Dieu le bon. Alors, évidemment, vous l'imaginez bien, la Révolution a supprimé cette pratique. Louis XVIII se dit, oulala, je reviens sur le trône, je vais pas commencer à faire ça. Mais Charles X, son frère, a guéri les écrouelles après son sac. Alors, il y a évidemment nettement moins de monde, il y a une centaine de patients, dont 5 seulement éprouveront un soulagement dans les 3 mois qui suivent. Mais c'est 1825, c'était il y a 200 ans, c'est pas.
C'est hier. Et on sait si ça a marché.
Alors, oui, ça marche. Parce que, alors, de nos jours, nous savons que la scrofule, qui est devenue dans nos manuels de médecine l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, est une maladie dont les fistules et les suppurations peuvent disparaître spontanément.
Ah, voilà.
Voilà, quitte à récidiver indéfiniment tout au long de l'existence. Donc, il y avait 2 à 3% de patients qui, effectivement, guérissaient. Alors, bon, depuis 1870, on n'a plus droit à guérisseurs, mais on a la République et les antibiotiques, c'est pas mal non plus.
Ça marche quand même mieux.
Merci beaucoup, Clémentine. Vraiment, vous nous avez beaucoup touchés.
Oui, bah oui. Alors, Clémentine, vous restez
Clémentine
avec nous.
Te touche, Dieu te guérisse.
Oui, ou on Dieu l'espère. Te punit en ce qui concerne le
Dieu
quiz qui arrive. Hein. C'est, la chance devrait normalement tourner, c'est quasiment statistique. En effet, ces derniers jours, Stéphane a beaucoup gagné dans le quiz. Certains analystes disent même anormalement gagné.
Mais non.
D'où lui vient cette chance?
De cocu.
Oh, pardon, je ne savais pas.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Comme par magie, c'est notre thème cet après-midi. On part à la rencontre, vous le savez, des plus grands magiciens de l'histoire. Seulement voilà, nous avons contacté les meilleurs magiciens du moment. Éric Antoine est notre consultant aujourd'hui. Mais hélas, même Éric Antoine bute sur ce tour de magie que nous essayons de mettre en place depuis plusieurs mois dans Historiquement Vôtre. Que
arrêtez,
Stéphane Bern remporte
mais
une édition
mytho.
Du quiz sans tricher. Car avec lui, c'est comme dans l'illusionnisme, quand il gagne, c'est sympa, mais on sait qu'il y a un truc. Jouons à Bern Pupiela.
Vous êtes un mystificateur, monsieur. Les auditeurs s'en rendent compte.
Oui, ils ne sont pas dupes. Mais j'aime m'amuser avec vous. Stéphane, première question. Dans le Colisée de Rome, Jules César avait une sorte de loge VIP où, de son vivant seul, lui et ses invités pouvaient assister au combat de gladiateurs. Vrai ou faux?
Dans le Colisée de Rome?
Oui.
Parce que Ave César, moriturit et salutant.
Oui, vous avez lu Astérix comme moi, oui, Astérix gladiateur, oui, très bien. Mais au-delà de ça.
Oui, c'est sans doute possible. Mais
oui, il était là dans sa loge.
Pourquoi juste pour César, Stéphane?
Oui, il y
tous
avait,
les empereurs à la suite de César.
Ah, oui. Moi, la question moi, concerne Jules César, en fait.
Bon, Jules César.
Je pense qu'il y avait d'abord, ce que je sais pour être allé au Colisée, c'est qu'il y avait plusieurs. Il y avait les fauteuils d'orchestre, le balcon, il y avait des loges.
Dans la mesure où il y avait des emplacements spécifiques en fonction des catégories sociales, ça paraît tout à fait probable qu'il y ait eu un emplacement VIP. Maintenant, est-ce que César, qui était dictateur et pas encore empereur, a pu avoir un truc aussi smart que les suivants?
Il avait sa loge. On visite d'ailleurs toujours la loge de César.
Bien sûr. Très bien. Vous l'avez visité vous-même, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Non, je plaisante. C'est un jeu, tout ça. Oui, je pense que César avait
sa
loge.
Découvrons la réponse.
Comme.
Vous avez
perdu.
Oh Stéphane, Morituri bah oui. T'es salutante. C'est une mauvaise réponse. Jules César n'a jamais mis les pieds dans le Colisée. L'amphithéâtre
ah, il n'était
a
pas
été terminé.
Oh, bah oui.
En 80.
Oh, c'est dégueulasse. Ah, mais oui, bien
alors,
sûr.
Là. Et alors que oui, ce sûr. Bon Jules est mort en 44 avant Jésus-Christ. Même dans Astérix, vous l'auriez appris ça.
Oh, ouais, mais c'est... ça, c'est vache. Ah, c'est... Oui, ça, c'était
question
vraiment
question numéro 2 pour vous, Clémentine Portet-Kaltenbach. Autre question, Colisée et Gladiateur. En 2000, Ridley Scott sort au cinéma Gladiateur avec Russell Crowe entre autres. J'imagine que Russell Crowe vous a...
Ah, oh, j'adore.
Oui. Ne nous épanchons pas sur le sujet, j'imagine très bien. Ridley a eu l'autorisation des autorités de filmer au Colisée, mais comme le monument n'était pas assez impressionnant, il en a fait construire un autre à Malte. Vrai ou faux?
Je sais qu'à Malte est réputé pour tous les effets spéciaux liés à la mer, mais c'est pas tellement Gladiator. Est-ce qu'il l'aurait fait reconstruire? Il y a en effet des scènes de combat dans un amphithéâtre dans Gladiator qui n'est pas celui du Colisée. Est-ce qu'il a pu utiliser ce décor? Moi, je dirais oui, mais évidemment, c'est à des dimensions réduites. Mais le cinéma peut tant de choses. Oui, je dirais oui.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Clémentine. Ridley Scott a fait construire un tiers du Colisée en contreplaqué à Malte et le reste a été fait numériquement. Effectivement, le vrai Colisée n'était pas assez impressionnant à la caméra. Et donc, ce souci de la perfection de Ridley lui a fait construire un
merci
autre
Ridley,
Colisée.
Merci
Ridley. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Actuellement, Jupiter est à l'Élysée. Emmanuel Macron avait parlé d'une présidence jupitérienne pour qualifier son arrivée au pouvoir. Mais Jupiter, c'est aussi le nom du premier Labrador à avoir vécu à l'Élysée sous la Ve République. Vrai ou faux? Là, on est au cœur de l'histoire, Stéphane. Hein, accrochez-vous.
Je ne crois pas parce que j'ai fait un livre, comme vous le savez, sur les chiens des présidents.
Oui.
Et
c'est chaud de Giscard, je suppose, dont il s'agit là, non?
Et je crois me.
Je ne peux pas donner
ah
le
nom. Ah non, parce que monsieur.
Non, c'est, y avait... c'est un film Jupiter le Labrador. Ça n'a rien à voir avec les chiens des présidents. Parce qu'il y avait Baltique, c'était.
Et vous avez dit 5ème République alors, parce qu'il y a Cossy qui avait des bergers.
Si, alors, Georges Pompidou avait un chien qui s'appelait Jupiter. Georges Pompidou avait un chien qui s'appelait Jupiter. Maintenant, est-ce qu'il l'a amené à l'Élysée? Ça,
Mais vous répondez quoi alors?
Écoutez, oui, je sais que c'était. Je sais en tout cas que Pompidou avait un chien qui s'appelait Jupiter. Voilà.
Vous avez gagné!
Il y a des moments dans la vie d'un homme où il faut savoir reconnaître le talent des autres. C'est un de ces moments, cet après-midi, au micro d'Europe 1. Je dois dire, Stéphane, je vous charrie beaucoup, mais là, en plus, vous étiez mal parti en disant non. Et en plus, vous tiriez une balle dans le pied en disant « J'ai écrit un livre sur les animaux là !» Donc là, ça aurait été terrible de perdre, ça aurait été vraiment ridicule. Et vous allez surbondir en faisant appel à votre mémoire, et vous avez trouvé, effectivement, Jupiter, c'était le chien de Pompidou en 69, un labrador noir, couleur chocolat. Le général de Gaulle avait reçu un corgi de sa majesté Louis
II. Où il est noir, où il est chocolat. Il ne peut pas être les deux à la fois. C'est-à-dire,
ah oui, pardon,
noir,
il peut pas être. Là, oui, d'accord. Ah, pardon, là, on a vraiment affaire à un spécialiste des chiens.
Oui.
Vous aimeriez m'enlever un point, mais je ne joue pas, moi. Donc, ça ne fonctionne pas. Et comment s'appelait le corgi?
Noir.
Comment s'appelait le corgi que Sa Majesté Elisabeth II avait offert à De Gaulle?
Aucune idée.
Il s'appelait Razmot, mais il a toujours vécu dans la maison de campagne du général à Colombey-les-Deux-Églises. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Bouddha avait un fils. Il s'appelait Rahula. Vrai ou faux?
Est-ce que Bouddha a eu une vie de famille avant de recevoir l'illumination et aller séjourner au pied de son arbre? Je pense qu'il a pu recevoir l'illumination alors qu'il en quittant toute sa famille. Il aurait donc déjà eu un enfant et qui aurait tout à fait pu s'appeler Rahula, puisqu'il y a bien eu aussi un roi de France qui s'appelait Raoul et qui est mort de pédonculose. Donc je vais répondre oui.
Le lien est improbable, mais pourquoi pas.
S'il y a eu un roi de France nommé Raoul, Bouddha peut avoir eu un fils qui s'appelait Rahula. Voilà.
Vous avez gagné.
C'est un bon raisonnement suivi d'une bonne réponse. 600 ans avant Jésus-Christ, Siddhartha Gautama était un prince. Il a eu un fils avec sa cousine germaine. Mais comme vous le savez, il a tenu à choisir une vie d'ascèse et s'élever spirituellement pour devenir Bouddha. Avoir un fils est un obstacle à cet objectif. D'ailleurs, Rahula signifie obstacle.
Ah,
figurez-vous.
Très intéressant.
C'était écrit. Et c'était la dernière question de ce quiz remporté Non, pas haut la main, car
on
Stéphane n'a pas démérité. On me signale en régie que vous avez gagné, Clémentine.
Mais comment c'est, se fait
c'est très beau de votre, bah, de votre part, mais c'est juste une
non, mais
en fait.
À quelle question n'avez-vous pas répondu?
Eh bien,
je me suis trompé sur César, évidemment.
Oui,
je me suis focalisé...
Oui, sur la loge de César, mais oui,
je me suis focalisé sur les loges, au lieu de penser à la date de création on s'est fait avoir.
Et c'est dommage, et en plus, si vous aviez été à égalité, il y avait une très belle question sur Mickey Mouse à suivre, qu'on écoutera un autre jour, probablement. Bravo, Clémentine Portier-Kaltenbach.
(Rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, consacré aujourd'hui aux grands magiciens de l'histoire. Pour l'occasion, je vous rappelle le défi que nous nous sommes lancés avec mon complice Stéphane Bern. À l'issue de cette émission, j'enfermerai Stéphane dans une boîte rectangulaire. Je confierai deux scies, l'une à David Castello-Lopez, l'autre à Olivier Pouls. À mon signal, ils scieront. Nous ouvrirons ensuite la boîte pour voir dans quel état est Stéphane. Ça devrait bien se passer, Stéphane. On n'a pas répété, mais ils ont regardé 2-3 tutos sur Internet.
Peut-être que c'est vous qui devriez aller dans la boîte. Vous êtes plus souple que moi.
Non, moi je suis raide comme un bambou. Stéphane, dites-nous plutôt ce qui nous attend dans cette deuxième heure.
Eh bien, on continue notre tour des grands magiciens de l'histoire en compagnie du magicien Eric Antoine avec le portrait d'un des plus emblématiques, Harry Houdini. Et de votre côté, Mathieu, vous nous parlerez d'un magicien vivant.
Oui, Stéphane, on dit de lui qu'il est le plus grand magicien de tous les temps, ce qui est faux, vu qu'Eric Antoine, qui est avec nous, fait plus de 2 mètres. Je vous raconte le fabuleux destin de David Copperfield.
Et sans oublier nos chroniqueurs qui ont plus que du talent, aussi David Castello-Lopez, qui nous raconte les origines d'un appareil photo pas comme les autres.
Oui, tout à fait.
Magique,
le Polaroid, hein, qui permettait de prendre des photos sans les donner à développer à personne, ce qui peut avoir des avantages.
Tout de suite, vous faisiez des photos coquines avec votre Polaroid, vous ?
On verra ça.
Mais on n'avait pas l'âge, on était tout jeune quand il y avait le Polaroid.
On était jeune,
mais on faisait déjà des films porno, des séquences porno pour certains d'entre nous. Olivier Pouls.
Eh bien, nous sommes jeudi, le troisième jeudi du mois de novembre. Ça devrait tilter dans votre tête, mon cher Mathieu.
Mais évidemment, c'est la sortie du Beaujolais nouveau.
Eh bien oui, mon copain, on va s'en faire une petite rasade tout à l'heure.
Avec on va vous laisser. Hein.
Oh Stéphane, ça peut être sympathique. C'est
aussi,
c'est aussi le partage.
Il a le goût de noisette ou de framboise.
Ça de banane,
je vous dirai ça, mais vous apporterez la charcuterie, Stéphane.
D'accord, et puis, très bien. Stéphane, une fois que nous aurions digéré, vous aurez le mot de la fin avec votre expression du jour.
Ça tombe bien, chic, aujourd'hui, inouï. Aller à la selle. Bah, c'est la journée mondiale des toilettes. On va aller à la selle.
On va aller à la selle, on a hâte, mais on va peut-être pas y aller tous ensemble. Vous expliquerez d'où vient cette jolie expression. Mais tout de suite, Stéphane, on va découvrir l'histoire du magicien avec un grand M. Harry, un ami qui vous veut du bien, Harry Houdini, bien sûr.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est peut-être le premier nom qui vient à l'esprit quand on nous demande de citer un magicien célèbre. Stéphane, vous nous racontez la vie d'Harry Houdini.
Oui, ça ne vous aura pas échappé. Notre deuxième magicien du jour, Harry Houdini, a un lien avec le premier, Jean-Eugène Robert Houdin, le père de la magie moderne, dont nous parlions en début d'émission. Ce lien, eh bien, c'est son nom. Un pseudonyme qui s'inspire directement de lui. C'est un camarade d'une fabrique de cravates dans laquelle Erich Weitz, son vrai nom, travaille dans ses jeunes années, qui lui propose de prendre le nom d'Houdini après avoir lui aussi lu les mémoires du magicien français. C'est d'ailleurs ensemble que les deux jeunes garçons totalement fascinés se lancent dans la magie. Ils sont les frères Houdini. Ils conçoivent des tours inédits avec ce qui deviendra la spécialité d'Harry Houdini, l'art de l'évasion. Ou comment, enfermé dans un sac noué et placé dans un coffre cadenassé, il arrive à s'en libérer devant une foule qui l'acclame. Un public qui fera bientôt de lui le plus grand magicien du monde. Mais avant d'en arriver là, il y en aura fallu du temps. Il faut remonter au début de l'histoire, à Ellis Island, aux États-Unis, le 3 juillet 1878. Ce jour-là, dans la foule des émigrés qui viennent tenter leur chance en Amérique, il y a un petit Hongrois de 4 ans, Erich Weitz, dont la famille s'installe d'abord dans le Wisconsin avant de revenir à New York. C'est là, dans les rues de la Grosse Pomme, que le petit Erich va se forger une ambition. Il commence par des petits boulots. Quand il ne fait pas dans le commerce de cravates, Erich vend des journaux à la criée ou propose ses services aux artisans du quartier. Mais la vraie passion du jeune garçon, c'est le cirque. Il y passe sa vie, mais oh, pas pour se détendre, non. Il observe. Encore enfant, Erich Weitz est déjà assidu. Il veut tout apprendre et tout essayer. La bonne nouvelle, c'est qu'il a de sérieux atouts. Il n'est pas grand, mais il est agile et souple. Ce qui est idéal pour se frotter au trapèze ou pour faire des cascades avec son frère ou avec le fils des Keaton. Les Keaton, voyez-vous, c'est une famille avec qui les parents des riches ont fondé une compagnie de spectacle de rue. La légende affirme d'ailleurs que c'était Erich qui a trouvé le surnom de Joseph, le petit dernier des Keaton, Buster.
Oh,
Buster Keaton.
Buster Keaton. Ah oui, bah oui, mais je ne savais pas qu'ils étaient connectés. C'est que ces deux familles étaient connectées.
Fasciné par la magie, après avoir vu le docteur Lynn, un magicien de voyage effectuant le tour des anneaux, Erich Weiss devient alors Harry Houdini. Il se tourne définitivement vers la magie à l'âge de 17 ans, comme une alternative au travail en usine. Il fait équipe avec Jack Eman, son camarade rencontré chez le vendeur de cravates, puis avec son frère Theodore Hardin. Et enfin avec Beth Rana, devenue partenaire d'Harry Houdini à la fois sur la scène et dans la vie. Elle a 16 ans, lui en a 20 au moment où ils se marient. Houdini n'est pas seulement agile, il est aussi très doué dans l'art de la prestidigitation. À force de s'entraîner sans relâche avec sa femme Bess, il impressionne vite son monde.
Comment exactement avec sa femme
Bess?
Il
s'entraîne à faire des tours, vous savez,
différents tourniquets
japonais. Il impressionne vite son monde et se voit ouvrir en grand les portes des foires et des théâtres. Mais pour se démarquer, il faut un truc, une spécialité. Houdini décide donc de se spécialiser dans l'art de l'évasion. Et son coup de génie, c'est qu'il a le sens du show. Réussir à se dégager d'une camisole de force sur scène, c'est déjà très fort. Quand il le fait suspendu à une corde tendue à 40 mètres du sol, la tête en bas et sans câble de sécurité, c'est encore mieux. Et en plein cœur de New York à l'heure de pointe, et en partant de l'immeuble du journal du coin, on peut difficilement faire plus impressionnant. Houdini fait rapidement parler de lui. Il n'a pas que le don du show, il a aussi le sens de la provocation, avec la police par exemple. En 1898, à Chicago, il parie avec le commissariat local qu'il est capable de s'évader en 30 minutes après avoir été menotté et jeté dans une cellule. Les policiers sont morts de rire. Mais pas Houdini, qui est en train de se faire vomir pour récupérer le passe-partout avalé une heure plus tôt. 5 minutes plus tard, Houdini a réussi à se glisser à travers les barreaux en se contorsionnant et n'a plus qu'à repasser par la porte d'entrée du commissariat pour venir faire coucou aux policiers, à la plus grande joie des journalistes. Forcément, il en agace certains. Au cours d'une tournée en Allemagne, un policier de Cologne l'accuse d'avoir essayé de le corrompre. Houdini dément et porte plainte. Et histoire de montrer qu'il est vraiment doué, il s'amuse en plein tribunal à fracturer en 2 minutes le coffre-fort du juge. Au début du XXe siècle, Houdini est connu dans le monde entier, mais suscite vite des jalousies dans un petit milieu où l'on a parfois l'ego un peu sensible. Houdini devient l'homme qu'il faut dépasser, mais le magicien star complique les choses pour distancer encore la concurrence. Houdini met au point des tours de plus en plus difficiles, comme la chambre chinoise des tortures. Tête en bas, menotté, les pieds dans un carcan de métal, Houdini plonge dans un caisson de verre rempli d'eau. On verrouille la cage, on l'entoure avec des rideaux et pendant que des musiciens font monter la pression avec une petite musique de circonstance, Houdini cherche à se libérer pour ne pas se noyer. Et ce n'est pas du flan, Mathieu. Il risque vraiment sa vie à chaque représentation. Pourtant, chaque soir, le voilà qui ouvre le rideau trempé avec un grand sourire. Mais l'ambition d'Houdini ne se limite pas à la scène. Son grand combat, c'est celui contre les truands qui salissent à ses yeux l'art de la magie en se faisant de l'argent avec du spiritisme, de la voyance ou de l'astrologie. Houdini publie tribune sur tribune, se fait une joie de saboter les représentations des escrocs les plus en vue. Une histoire surtout va marquer les esprits, celle d'un médium qui se vante de pouvoir faire bouger des objets par la seule force de sa pensée. Un soir, Houdini assiste à la représentation, incognito. Quand on rallume la salle, les mains du médium sont noires de suie. La suie qu'Houdini a discrètement déposée sur les objets qui étaient censés bouger tout seuls. Au milieu des années 20, Houdini commence même à écrire sa grande œuvre, Le cancer de la superstition, avec un co-auteur un peu particulier, Howard Phillips Lovecraft, le pionnier de la littérature fantastique et d'horreur et créateur du mythe de Cthulhu. Mais Houdini... Oui, c'est important,
c'est
le mythe de Cthulhu. Mais Houdini ne finira malheureusement jamais ce livre, car Voyez-vous, Mathieu, le destin va lui jouer un sale tour. Un tour dont il ne va cette fois pas ressortir vivant. En 1926, Houdini a 52 ans, il se lance dans une nouvelle tournée qui tourne autour d'une seule promesse. Il est invincible. Pour le prouver, Houdini propose chaque soir aux spectateurs de monter sur scène pour le frapper au ventre de toute leur force. Le 22 octobre, à Montréal, un jeune étudiant l'accuse d'avoir recours à des complices qui retiennent leur coup et se met sans crier gare à le cogner à l'abdomen. Secoué, blessé, Houdini décide de poursuivre cette tournée coûte que coûte, mais chaque soir la douleur est plus forte et la fièvre monte. Houdini finit par être hospitalisé en urgence et le diagnostic tombe. C'est une péritonite trop avancée pour que les chirurgiens puissent le sauver. Houdini meurt le 31 octobre à Detroit, ou Détroit comme vous voulez. C'est le soir d'Halloween, voyez-vous Mathieu.
C'est
ce qui s'appelle finir sa carrière sur un bide.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le magicien Éric-Antoine nous accompagne cet après-midi, vous le savez. Alors on vient de le voir, la magie ça peut être dangereux aussi. Concernant Harry Houdini, on n'est plus seulement dans la magie, là, mais on est dans la performance. Les deux sont souvent liés.
Alors ça dépend des magiciens, c'est vraiment une famille. Et Harry Houdini c'est le créateur de ce qu'on appelle l'escapologie. Il a créé une branche à la magie. Et il y a eu beaucoup d'émules. Aujourd'hui, on a par exemple aux États-Unis un homme qui s'appelle David Blaine, qui risque vraiment sa vie, qui fait le bullet catch, le fameux tour dont on parlait aussi avant pour Robert Houdin, d'attraper une balle avec la bouche. Sauf que lui le fait vraiment.
Non.
C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des trucages et des subterfuges de magie, il s'est fait construire une mâchoire en Kevlar.
Oh non.
Et un tireur d'élite lui tire dessus dans la bouche. Donc, il y a vraiment des trompe-la-mort. Ça fait partie de la tradition de la magie. Et Harry Houdini, en effet, en est le créateur, finalement, de cette mouvance.
Bon, restez avec nous, cher Éric-Antoine. On va continuer à parler d'Houdini avec vous dans un court instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue comme par magie avec le magicien et humoriste Éric-Antoine, qu'on peut légitimement présenter comme le plus grand magicien de ce siècle, à titre de l'un de vos sketchs que vous avez joué il y a quelques années. Éric-Antoine, pour nos auditeurs qui sont jeunes et qui cherchent leur voie, qui s'intéressent à la magie, est-ce qu'il faut un don vraiment unique pour être magicien ou c'est avant tout du travail? Ou est-ce qu'il faut quand même être très adroit de ses mains, j'imagine, hein?
Non, je suis pas très adroit, je suis même plutôt maladroit. Je fais 2 mètres, je fais 115 kilos, je m'assois sur une chaise, elle casse, je m'assois sur un enfant, il décède. Non, je suis plutôt maladroit et je dirais que c'est avant tout le travail, mais comme dans tous les métiers, ce qui différencie vraiment un artiste d'un autre et qui différencie un professionnel, quel que soit son domaine de compétence d'un autre, c'est quand même sa puissance de travail. C'est quand même le fait d'être capable de passer les quelques heures de plus que les autres ne font pas pour aller chercher ce que les autres n'ont pas encore trouvé. Donc moi, je suis absolument convaincu de la vertu du travail.
Oui, mais on peut commencer avec la boîte à magie pour Noël. Est-ce qu'on peut commencer par...
Mais oui, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Alors.
J'y arrive pas à la boîte de magie, moi j'en ai acheté.
Mais oui, moi j'en ai acheté,
j'y arrive
c'était
pas,
la valise de Mickey. J'espère qu'aujourd'hui les enfants achètent la mienne.
Ça, c'est mieux.
Ah, vous avez fait une valise à magie. Ah super.
Ah j'en ai plein, il y a toute une collection.
Est-ce que vous prenez des risques parfois? Enfin, on parlait d'Houdini, on l'a vu, c'est parfois flippant. Il est dans le vide, il est enfermé sous l'eau. Enfin, c'est quand même
pas au même niveau.
C'est quand même dangereux.
Ah oui, c'est très dangereux d'ailleurs.
Vous n'iriez pas, vous n'iriez pas jusqu'à faire ça.
Non.
Mais il risquait vraiment sa vie.
Ah oui, lui risquait sa vie. Il se jetait dans le Mississippi, dans les eaux boueuses, attaché de menottes qui étaient plus ou moins travaillées évidemment, mais il y avait toujours une possibilité d'accident. Moi, j'ai eu des accidents, j'ai eu des fractures, des entorses, oui, parce que quand on doit disparaître à toute vitesse et réapparaître de l'autre côté de la salle, bah, ça demande une condition physique qui n'est pas forcément ma qualité première pour le coup.
Dites-moi, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, Houdini, vous en avez parlé, Stéphane, il se bat tout au long de sa vie contre les magiciens charlatans. Est-ce que c'est
vraiment intéressant.
C'est un de ses combats.
Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis fan, en plus d'être d'Houdini, j'ai toujours été un grand fan de Conan Doyle. Et Conan Doyle, qui a créé Sherlock Holmes, qui est le personnage par excellence de la déduction du cérébral avant le mystique. Conan Doyle était lui un grand mystique, était un ami d'ailleurs d'Houdini. Il était convaincu qu'Houdini avait des pouvoirs. et que il avait des pouvoirs mystiques. Et Houdini s'est battu même contre son ami Conan Doyle pour lui dire, mais non, je suis pas capable de disparaître, je suis pas capable d'entendre les morts, je suis pas capable. Et il avait dans sa narration, d'ailleurs, c'est un des seuls magiciens qui disait ça à haute voix. Je n'ai pas de pouvoir. C'est très dur quand on est magicien, on ne peut pas croire à la magie puisqu'on n'arrête pas de trouver des explications à l'élément magique finalement. Mais moi, je suis un magicien un peu étrange parce que parfois, je constate que dans la vie, il y a des choses magiques dont je n'ai pas l'explication. Et ça amène une certaine forme de poésie dans la vie, je trouve.
Eric Antoine, on confond souvent Houdin et Houdini.
Oui.
Alors, c'est pas qu'une question de nom, parce que au fond, ils sont très différents. Ils sont l'illustration qu'il y a de nombreuses formes de magie. Houdini est un maître de l'illusion et de la prestidigitation. Quelle différence vous faites entre les deux?
Bah, déjà, c'est pas exactement la même époque, hein. Robert Houdin, donc Jean-Eugène Robert Houdin est français, il précède Houdini, et c'était vraiment avant tout un inventeur. C'était vraiment un inventeur d'illusions, de mécanismes, et Houdini, c'était un homme de spectacle avant tout. C'était vraiment quelqu'un qui a fait de l'illusion, de la prestidigitation dès son plus jeune âge, et qui lui a surfé sur cette vague de trompe-la-mort. Donc d'un côté on a un inventeur, de l'autre côté on a un trompe-la-mort. Et il était plus, finalement, ça a été plus quelqu'un qui a été dans le spectaculaire à outrance, c'est-à-dire a vraiment risqué sa vie, et d'ailleurs il est mort des risques qu'il a pris. Donc c'est pas du tout la même
optique. Si les deux s'étaient présentés devant vous dans La France à un incroyable talent, lequel aurait gagné?
Ça c'est très intéressant. Les deux mériteraient de gagner. J'espère ne jamais avoir à choisir entre les deux, mais je pense que j'aurais été plus proche d'Houdini, qui est un homme de spectacle avant tout, qui est sans doute plus vers le spectaculaire, mais en même temps, je peux pas vous dire ça parce que il y a des choses tellement merveilleuses chez Houdin. Je ne peux pas choisir.
On va vous éviter le récit que fera Mathieu Noël dans un instant, David Copperfield, parce qu'à mon avis, il va écorner le mythe. Oui. Merci Eric-Antoine d'avoir été avec nous cet après-midi.
Avec grand plaisir.
On vous retrouve alors mardi soir à 21h sur M6 dans le jury de La France a un incroyable talent. Absolument. L'émission qui vous a d'ailleurs révélé au grand public parce que vous étiez sur la scène lors de la première saison.
Exact.
Et pour vous retrouver sur scène, il faudra patienter un peu, évidemment, en raison des conditions actuelles sanitaires. Votre spectacle grandit un peu et reporté l'année prochaine. Vous serez en tournée en France au printemps prochain et du 2 décembre 2021 au 16 janvier 2022 au Folies Bergères. Avant ça, on attend le show digital.
Oui, je peux vous dire un mot là-dessus d'ailleurs, Stéphane, Mathieu.
Ben oui, dites-moi.
Je suis vraiment en train d'essayer de réunir les gens, même à distance. C'est-à-dire que, par exemple, des grands-parents vont pouvoir faire un tour de magie par mon biais à leurs petits-enfants qui seront à des centaines de kilomètres. Les petits-enfants vont deviner ce que j'ai, par exemple, moi, dans la poche, combien j'ai de monnaie dans la poche, quelle est la plaque d'immatriculation de ma voiture. Je suis en train vraiment de développer de la magie autour de cet outil digital en utilisant la spécificité en faisant de ce moment qui est un peu difficile, finalement, j'espère, un moment encore plus magique que ça n'aurait été dans une salle de spectacle.
Ben, on a hâte de voir ça sur votre site internet. Merci beaucoup Eric-Antoine.
Merci Eric.
Merci Mathieu, merci Stéphane, merci de votre accueil et merci de cette belle émission.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les grands magiciens de l'histoire. Après Jean-Eugène Robert Houdin et Harry Houdini, vous nous parlez, Mathieu, d'un grand magicien encore bien vivant, peut-être le plus marquant de sa génération, David Copperfield. Et vous allez commettre le sacrilège ultime pour les fans de magie. Vous allez nous révéler le truc d'un de ses tours les plus célèbres.
Oui, Stéphane, ça a été un vrai cas de conscience pour moi. Soit me contenter de vous raconter l'histoire de David Copperfield sans entrer dans le détail de ses tours de magie et conserver ma carte de presse, soit faire de l'audience en vous dévoilant ici en exclusivité le secret d'une de ses illusions les plus stupéfiantes et perdre ma carte de presse. Ma décision, je l'ai prise en songeant au fait que de toute façon, je n'avais pas carte de presse. Voici donc l'histoire de David Copperfield et restez bien avec nous car à la fin, et je ne plaisante pas, je vais vous révéler le truc d'une de ses illusions les plus célèbres, la téléportation du public. Je vais pouvoir vous le révéler d'autant plus facilement que j'étais moi-même dans ce public. Tout d'abord, j'aimerais évidemment rendre hommage au talent de David Copperfield qui est né avec un don. Si on y réfléchit bien, on est tous avec un don. Mais ce don est plus ou moins frappant selon les personnes. Notre David, à nous, par exemple, aurait aimé avoir le don de dunker au basket. À la place, Dan Nature lui a donné un autre don moins spectaculaire.
Est-ce que quelqu'un ici sait imiter les essuie-glaces qui marchent pas?
Oui, Dan Nature
n'a pas réparti les dons équitablement entre les êtres humains, la preuve donc avec David Copperfield. Ou plutôt, David Seth Kotkin, rendant hommage à son véritable nom. David, petit américain du New Jersey, qui à l'âge de 12 ans seulement, devient le plus jeune magicien à être admis à la SAM, The Society of American Magicians, une des plus prestigieuses sociétés de prestidigitateurs au monde. C'est un peu la même émotion que lorsque Harry Potter est pris à Poudlard, ne déclarera pas David Copperfield vu que c'est un anachronisme, mais c'est l'idée. La carrière du jeune prodige commence pourtant très mal. Il est certes déjà doué en magie, mais pas encore en marketing, et au moment de choisir son premier pseudo, David opte pour le nom de Davino. Davino, nom idéal pour quelqu'un qui serait le fils de Dalida et Dave et se destinerait à une carrière de transformiste chez Michou, mais qui n'est pas très vendeur pour un magicien américain qui rêve de révolutionner l'illusionnisme. Et si vous avez désormais dans l'esprit l'image d'un enfant qui serait moitié Dave, moitié Dalida, je vous présente mes excuses, c'est effectivement assez dérangeant. Davino, lui, n'a pas conscience de ce ridicule. À l'école, il distribue sa carte proposant ses services lors des anniversaires. Et à l'époque, pour 5$, vous pouvez vous payer David Copperfield chez vous. Et ça marche. Chaque après-midi, Davino illumine les goûters d'anniversaire en captivant par ses tours de magie, les enfants émerveillés. Et en termes de petits jobs, ça fonctionne mieux que celui de Stéphane qui, à la même époque, sous le pseudonyme de Bernino, propose aux enfants un atelier découverte des rois de France.
Louis Ier, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII.
Ça marchait beaucoup moins bien. Car à 14 ans, Davino a une double épiphanie. Il découvre le film Houdini, le grand magicien, et il découvre Dave. Voilà. Il décide immédiatement de renoncer au pseudonyme de Davino et se lance dans la création de son premier spectacle. Premier show dont on ne sait rien, sachant qu'il l'a seulement joué devant ses proches. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander, à 14 ans, pour son premier spectacle, David Copperfield a-t-il utilisé comme nous le fil de la canne à pêche de papy pour simuler la lévitation du déambulateur de mamie? Ou était-il déjà bien meilleur? Bah, vu la suite, il devait déjà être meilleur. À 16 ans, il part étudier la prestidigitation à l'université de Fordham à New York. C'est comme quand Harry Potter passe en troisième année à Poudlard, ne déclarera toujours pas David Copperfield, vu que J.K. Rowling n'existe toujours pas. Bizarrement, pour un type qui pourra bientôt faire disparaître la statue de la liberté en claquant des doigts, David bute sur un tour pourtant assez basique, décrocher son bac. Même Pouls l'a fait. Enfin, pas grave, car David décide de tout miser sur ses talents d'illusionniste. Et c'est bien sûr sa passion pour la magie qui le motive, mais aussi sa passion pour les filles, car David est un précoce de la baguette dans tous les sens du terme, nous y viendrons. Pour l'instant, il a 19 ans, il passe avec succès le casting pour une comédie musicale à Chicago, The Magic Man. C'est pour ce spectacle d'ailleurs qu'il va choisir le nom de David Copperfield, et c'est là qu'il se fait repérer. Il faut dire qu'il est un des premiers magiciens complets. Il danse, il chante, il instille même de l'humour dans ses shows. Et donc, dès 1977, la chaîne ABC lui propose de créer sa propre série télévisée, La magie de David Copperfield. Alors là, Stéphane, pour Gérard Najac, c'est la grosse claque. Garcimore se dit aussi que ça va être dur de rivaliser. Notez l'imitation parfaite de Garcimore, dont l'esprit a été en quelque sorte ressuscité l'espace d'un instant, merci moi. Alors, pourquoi David Copperfield devient-il en quelques années le plus célèbre magicien du monde? Eh bien, parce qu'il va s'inspirer de la calzone grandiosa supplément pepperoni, œuf, piment et ananas de chez Pizza Pino. C'est-à-dire ne pas avoir peur de tout fourrer dans un même spectacle. Magie, jeu de lumière, gag, émotion, féerie et même sensualité. La signature Copperfield, c'est le gigantisme. À la clé, 11 records au Guinness des records, une étoile sur le célèbre Walk of Fame, 21 Emmy Awards. Feu Davino a clairement révolutionné le monde de l'illusionnisme. Dans les années 90, on ne parle que de lui. Aujourd'hui, disons qu'il se fait un peu plus discret médiatiquement. Pour tout vous dire, l'un des premiers trucs qui sort sur Google quand tu tapes David Copperfield, c'est quand même « Mais que devient David Copperfield ?» C'est jamais bon signe, surtout quand l'article en question vient du site web de TéléZ. C'est ce qu'on appelle la doublette de la loose. Il faut dire que certaines de ces grandes illusions qui passaient crème dans les années 90 seraient mal perçues aujourd'hui. En 91, faire disparaître la tour Eiffel ou un Boeing, on appelait ça du génie. En 2020, on appelle ça du terrorisme. Bref, David ne fait plus la une des magazines. Mais vous savez quoi, Stéphane? David s'en fout. Parce que David est le magicien qui a gagné le plus de thunes dans toute l'histoire de la magie. Je me souviens encore des commentaires acides de mon père alors que ado je tremblais pour David Copperfield survivant aux terribles chutes du Niagara, s'échappant de la mythique prison d'Alcatraz ou s'auto-découpant en deux avec sa fameuse scie circulaire. « Mais c'est du bidon !» criait papa. Peut-être, mais du bidon juteux. Selon le magazine Ford, la fortune actuelle de David Copperfield serait de 1. 1 quoi d'après vous?
Un milliard.
$1 milliard. Ah, David n'est pas qu'un magicien, c'est aussi un homme. Il a été pendant 6 ans le compagnon de Claudia Schiffer, même si de mauvaise langue, comme David Castello-Lopez, on dit que c'était un deal win-win pour booster sa notoriété en Europe et la sienne aux États-Unis. Je ne crois pas à ça, je crois à l'amour et à l'immobilier. David aussi. En 97, il s'offre un appartement de 2500 m² à Manhattan. De quoi en stocker des lapins et des scies circulaires, mon salaud. Aujourd'hui, à 64 ans, il est toujours en représentation permanente à Las Vegas, 2 à 3 fois par jour. Pour assister à une de ses représentations, Stéphane, il faut compter une centaine d'euros. Eh oui, 2500 m², faut les chauffer. Les hivers sont rudes à Manhattan, surtout que Claudia
Wikipédia n'est plus là pour faire monter le thermostat. D'ailleurs, je déconseille nos auditeurs d'acquérir de trop grandes surfaces en copropriété. 2500 m2, par exemple, c'est trop, ne serait-ce que pour l'entretien. Ainsi, en 2012, David réalise involontairement le plus grand tour de magie de sa carrière. Il réussit à inonder 30 étages de l'immeuble new-yorkais où il vit. Comment ? La boulette classique, j'ai envie de dire. La pompe de sa piscine intérieure est tombée en panne et l'eau s'est écoulée un peu partout dans les étages inférieurs. On imagine l'ambiance à la fête des voisins.
Ah ouais.
Et oui, je vous avais prévenu, David aime l'humour aussi. Donc, moi, je vous le disais, j'ai eu la chance de voir son spectacle à Vegas.
Ah non !
Nous y venons. Je recommande chaudement. C'est toujours aussi impressionnant. Le seul truc un peu décevant, c'est d'être choisi pour monter sur scène au moment du tour dit de la téléportation. Vu de la salle, ça doit être dingue, hein ? Mais quand vous êtes vous-même téléporté et que vous découvrez, à la fois rassuré et déçu, que vous n'êtes pas vraiment téléporté, mais juste escorté par des assistants avec des lampes torches dans un petit tunnel sous la scène pour réapparaître 10 mètres plus loin comme par magie, vous vous dites « Merde, mes 100 $ !» Mais je ne voudrais pas gâcher la fête. David Copperfield reste un génie de la magie qui, avec sa manière très particulière de mélanger sensualité et illusion, a suscité bien des vocations chez les jeunes, même si certains, à ce que je me suis laissé dire, certains ont un peu confondu sensualité et lubricité.
Fermez les yeux et dites-moi ce que ça vous évoque. Hein.
Mesdames et messieurs, David pas Copperfield.
Ah, c'est drôle. Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Bon, tout est vrai.
Non, le seul truc qui est faux, c'est que c'était pas moi qui ai révélé ce que je me serais jamais permis, même si j'avais vu le spectacle de Copperfield, de révéler un tour. Par contre, c'est légalement, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'il a été attaqué en justice par un des spectateurs qui s'est cassé un bras ou qui s'est luxé quelque chose durant ce tour. Et donc, comme ça a été exposé en justice et révélé en public, on connaît effectivement, d'ailleurs, il le fait plus ce tour-là, où effectivement, il y avait des assistants qui vous escortaient un petit peu sous terre, sous la scène, effectivement. Voilà,
comme et donc, la magie est morte à cause d'un bras cassé, en fait.
La magie est morte à cause d'un connard d'Américain qui a porté la chose en justice. Effectivement, c'est dégueulasse. On embrasse David Copperfield qui reste, comme nous disait Eric-Antoine, le plus grand magicien du monde à l'heure actuelle.
Ouais. Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le passé n'est pas une masse inerte. Le passé éclaire parfois. Le présent, c'est tout l'objet de cette dernière demi-heure d'Historiquement vôtre. On part à l'origine. À l'origine d'une invention avec vous, David Castello-Lopez. L'origine du Polaroid.
Tout à fait. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une chronique sur l'appareil photo numérique?
Moi, je me souviens de toutes vos chroniques.
Oh, ça fait plaisir.
Elles sont dans mon cœur.
Surtout le béton armé, moi.
Le béton armé. Oui, elle a marqué les esprits,
ça
aussi.
Ça restera.
Et j'ai dit que l'appareil photo numérique, il avait démocratisé les photos porno à domicile parce qu'on n'avait plus besoin de donner ses pellicules à développer chez un monsieur qui était susceptible de regarder votre zizi. Mais... J'avais volontairement...
Vous en dites tellement sur vous à travers cette chronique.
J'avais volontairement omis le Polaroid. Ah. Le Polaroid qui était un excellent appareil familial hein, pour prendre des photos à Noël, mais qui permettait aussi de faire des nudes en scred. On appuyait sur le bouton.
Et le petit oiseau sortait.
On soufflait sur la photo comme un con pour que ça se développe plus vite alors qu'en fait ça servait à rien. Et on donnait le nude aux gens qu'on aimait bien sans que personne d'autre n'y ait accès. Alors, bien sûr, c'était un petit peu cher. Ça coûtait 10 francs par photo, c'est-à-dire avec l'inflation 2,50 € aujourd'hui. Et par rapport à gratuit, c'est vachement plus cher. Mais quand même, c'était super sympa. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut remercier pour cette invention géniale? Eh bien, il faut remercier un monsieur qui s'appelle Edwin Herbert Land, qui a inventé le procédé du Polaroid dans les années 40 et qui l'a commercialisé en 1948, même si le gros succès, il est venu avec le modèle SX70 dans les années 70, justement. Stéphane, vous l'avez peut-être connu, c'était un Polaroid en métal couvert de cuir marron et on l'ouvrait par le milieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non, je l'ai connu après, vous voyez.
Oui, après, à l'époque du plastique. Mais bon, c'est vraiment avec ça que ça a commencé. Tout le monde a pris, enfin, c'était un peu cher quand même, mais donc c'était vraiment démocratisé. Il y a eu des milliards de photos au Polaroid qui ont été prises. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Edwin Land, c'est autre chose. C'est que c'était un type qui était obsédé par le design et l'innovation, par le fait de faire des produits parfaits. Et aussi autre chose, quand il sortait un nouvel appareil, il organisait une sorte de show dans lequel il dévoilait ses nouveaux produits. Tout le monde applaudissait. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un?
Et Steve Jobs.
Steve Jobs, exactement.
Steve Jobs avant l'heure.
Edwin Land, il est considéré comme le précurseur de Steve Jobs. Et d'ailleurs, Steve Jobs a dit dans des interviews qu'il s'en était inspiré. Autre point commun avec Apple. Apple, vous savez, ils ont réussi à créer un circuit clos autour de leurs produits. C'est-à-dire l'iPhone qui va avec le Mac, MacBook qui va avec le cloud, qui va avec la montre, qui va avec l'Apple Store. Et bah Polaroid, c'était un peu dans une moindre mesure ça. Ils ont verrouillé leur technologie avec des brevets. C'est-à-dire que si vous vouliez acheter de la pellicule pour votre Polaroid, c'était forcément chez Polaroid. Et vous savez combien c'était leur marge bénéficiaire sur les pellicules à la grande époque, Polaroid? Alors c'est marqué sur la feuille.
Pardon, je regarde bêtement. Oh, oh, il m'a grillé en direct. Mais pardon, je ne regarde pas, mais j'ai pas réussi à le trouver. Alors oui, je ne sais pas.
Et ben c'était 60%.
60%, il se faisait plaisir.
Peugeot aujourd'hui, par exemple, ouais, c'est 3%.
Oui.
Voyez.
Ah oui, c'est pour ça que ça.
Voilà,
ah
fois plus quoi. Mais 60%, c'était quand même énorme. Et Edwin, il avait aussi quand même un côté très très visionnaire, qui s'entend notamment dans une petite vidéo qu'il a faite en 1970 pour ses employés. C'est en anglais, mais je vais traduire à la volée. Je pense à un appareil photo qui soit comme votre téléphone, que vous puissiez utiliser toute la journée. Je pourrais prendre dans ma poche un objet de la taille de mon portefeuille, l'ouvrir, appuyer sur un bouton et avoir la photo. C'est dingue, non?
Incroyable.
Et c'est 1970, c'est 50 ans, et c'est 4 ans avant le premier appareil photo numérique et 30 ans avant que ça prenne toute la place. Bon, il était visionnaire, mais pas non plus au point de voir que la photo numérique allait tuer le Polaroid.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme chez Kodak, Polaroid, il s'est dit, non, on va pas développer le digital, parce que si on fait ça, les gens, ils achèteront plus nos pellicules à 60% de marge. D'accord, mais si tu le fais pas, c'est un autre qui va le faire, et tes pellicules, personne les achètera plus de toute façon. Et Polaroid a fait faillite plusieurs fois de suite d'ailleurs, hein, jusqu'à ce que une chance inespérée, la naissance des hipsters.
La naissance de vous, David.
La naissance de moi.
Les mecs qui rachètent les Polaroids plein pot.
Exactement.
Avec des marges à 120% sur la pellicule. C'est bien packagé.
C'était à la fin des années 2000 et les hipsters, c'est vraiment des nostalgiques professionnels. Hein,
ouais.
C'est ça, c'est leur boulot, c'est que c'était mieux avant, en fait. Voilà. Et ils ont commencé à trouver effectivement que toutes les choses moins bien d'avant, en fait, elles étaient mieux. Parce que franchement, avec le numérique, vous voyez, on a grave perdu ce rapport à la matière. Et ça, on n'aime pas.
Il fait très bien le hipster.
Et voilà. Et il y a un collectif de hipsters qui a sauvé Polaroid une énième fois en continuant à produire les pellicules et aujourd'hui même des appareils. Alors bien sûr, c'est une nichounette hein, par rapport à ce qui a été Polaroid dans le passé, mais c'est une nichounette qu'elle mérite d'exister.
Olivier, je dois vous avouer que j'en ai reçu un il y a pas très longtemps. Hey,
un nude?
Non, pas un nude.
un Polaroid.
Et j'ai été frappé par la très mauvaise qualité
mais
des
mais
photos,
ça fait pas,
c'est
oui.
vraiment
mais
pourri.
Ça fait partie du charme.
Ah, mais on voit rien dessus.
Mais comment ça, on voit rien, on devine
oui,
les
et
formes.
En plus, quand on la met sur le frigo, ce que tout le monde fait, avec la lumière, elle se blanchit.
Ah oui, c'est ça.
Et on voit plus rien après 3 semaines.
C'est inutilisable, inutilisable.
Non, mais moi j'ai reçu des très belles photos, David. Vous m'avez envoyé une très belle photo d'une choucroute avec une saucisse. C'était magnifique. Hein, c'est ça que j'ai vidé en tout cas.
Non, c'est pas ça. Je crois que c'est lui tout nu.
Ah mon Dieu, Stéphane,
formulateur de sous-entendu.
Très bien joué.
En tout cas, merci beaucoup, David, parce qu'on peut retrouver les origines du Polaroid en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et un petit coup de Beaujolais, ça nous ferait pas du bien, les gars?
Bah si.
Ah bah, faut faire une
photo, hein.
Avec modération, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors, bien sûr, la vengeance n'est jamais une solution, mais dans le cadre de notre spécial magie, Olivier Pouls a exceptionnellement demandé à Éric Antoine de bien vouloir le renvoyer à Namur en 1984, mais avec sa taille d'adulte, histoire de régler enfin ses comptes avec le petit Benoît qui lui arrachait ses scratchs à longueur de journée. Hé, hey Benoît !
T'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs.
Oh. Olivier, maintenant que ça va mieux, que vous êtes soulagé de ce côté-là, parlez-nous de ce qui est pour vous, c'est vraiment l'information importante du jour.
C'est une tradition en tout cas qui a près de 70 ans, qui est en réalité beaucoup plus ancienne, mais qui est réglementée depuis 1951, c'est le fameux Beaujolais nouveau. Alors, est-ce que vous l'avez goûté ou est-ce que vous avez l'intention de le goûter dans la journée, les amis?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas où la vie va m'amener dans cette journée, dans cette soirée, mais oui, peut-être, pourquoi pas.
C'est vrai que ça a été pendant très longtemps une fête, une tradition dans les rues. Il n'y a pas un bistrot qui n'en proposait pas. C'était un événement.
Fermés,
alors ça, c'est vrai qu'ils sont fermés, mais bon, les cavistes sont ouverts, donc il y a quand même la source n'est pas tout à fait tarie. Et puis il y a un certain nombre de restaurateurs qui proposent en ce moment, en complément des plats emportés, du vin emporté, donc qui auront du Beaujolais nouveau. Mais c'est vrai que le Beaujolais nouveau n'est plus vraiment tendance. La faute à qui, la faute à quoi? La faute au Beaujolais nouveau en quelque sorte. Mais je vais vous expliquer tout d'abord d'où il vient. Alors traditionnellement, dans cette région et surtout la région du Beaujolais se trouve très proche de Lyon, on avait l'habitude de goûter ce qu'on appelait les premiers jus fermentés. Donc après la vendange, qui a lieu en général au mois de septembre, quelques semaines après, dans les tonneaux, le vin a fermenté, c'est-à-dire que le sucre s'est transformé en alcool et le jus de raisin est devenu du vin. Et on emmenait quelques tonneaux qu'on perçait et on faisait de manière très locale des festivités pour savoir à quoi ressemblait ce vin, puis c'était aussi l'occasion de fêter ce nouveau millésime. Et c'est en 1951 qu'en fait on a réglementé cette sortie du Beaujolais Nouveau, parce que traditionnellement il y avait une date qui imposait la mise sur le marché des premiers vins de l'année au 15 décembre. Et la région du Beaujolais a demandé que ce soit un petit peu plus tôt pour eux, parce que le vin était prêt, puis ils voulaient être les premiers en quelque sorte. Et ils ont obtenu à l'époque la date du 13 novembre. Donc pendant très longtemps, la sortie du Beaujolais Nouveau était le 13 novembre, date que vous connaissez bien, mon cher Mathieu.
Pile pour mon anniversaire. Moi, voilà, je crois qu'il y a toujours une raison, c'est une logique dans tout ça.
Il faut voir un signe. Et en 1985, on a décidé que ce serait le troisième jeudi du mois de novembre. C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a dépassé Lyon, qui est arrivé à Paris, bien sûr, qui est arrivé à l'étranger. Les Japonais ont été extrêmement friands de Beaujolais Nouveau. Et année après année, ce phénomène est devenu tellement énorme que dans les années 80, il représente pratiquement la moitié de la production de tout le Beaujolais. Vous imaginez, 500 000 hectolitres font du Beaujolais Nouveau. Alors ça a un intérêt.
Est-ce que toutes les propriétés là-bas font du Beaujolais Nouveau ou...
Alors pratiquement, ah oui. en quantité plus ou moins importante. Le seul problème du Beaujolais Nouveau, c'est que on est contraint finalement de proposer un vin donc très vite sur le marché et que on est obligé souvent d'accompagner ou d'accélérer ce fameux processus de fermentation. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on s'est mis à utiliser dans les années 80-90? Non, pas forcément des levures. Des levures qui permettaient d'accélérer ce processus et surtout qui aromatisaient le vin. Et ces fameuses levures aromatisantes, vous en connaissez tous les effets. Vous savez, c'est le fameux goût de banane, un coup goût de framboise, voilà, un goût de cassis, goût de ceci, goût de cela.
C'est juste qu'ils ont mis de l'arôme de framboise et de banane dedans.
Alors, c'est pas un arôme directement, c'est la levure qui est elle-même aromatisante. Et donc, chaque année, on utilisait des souches de levure un petit peu différentes et on standardisait ces goûts de Beaujolais. Et petit à petit est arrivé ce qui devait arriver. Les gens s'en sont lassés, ils ont vu la supercherie. Et puis surtout, ils trouvaient que ça n'avait plus rien d'authentique par rapport à ce que pouvait être un vrai vin du Beaujolais fermenté naturellement et qui peut être vraiment très bon. Alors, c'est jamais un très grand vin. Le Beaujolais Nouveau, c'est un vin de copain qu'on boit relativement frais avec de la charcuterie et qui n'a pas vocation non plus à être gardé très longtemps, contrairement au grand vin du Beaujolais qui existe, et on ne le redira jamais assez. Il y a 10 crus dans le Beaujolais, vous allez chacun m'en citer deux pour savoir où on en est.
Hein,
les crus du Beaujolais, mon cher Mathieu.
Ah oui, Morgon.
Alors Morgon, voilà. Village, non, ça c'est pas un cru.
Non,
Stéphane, un cru du Beaujolais.
Bien sûr, attendez.
J'ai aucune idée.
Fleury,
le Pastougrain.
Ah non, le Pastougrain, Fleury, c'est non, pas. Alors Fleury, bien sûr. Moulin-à-Vent, Chirouble, par exemple. Saint-Amour, voilà. En voilà quelques-uns.
J'en ai eu trois.
Voilà.
J'ai gagné le quiz.
Il y a 10 crus qui représentent l'excellence du Beaujolais et qui, eux, sont des vins qui sont mis sur le marché plus tard, qui peuvent vieillir très longtemps et qui même parfois, quand ils sont très bien faits, sont dignes de figurer sur les meilleures tables. Mais le Beaujolais Nouveau, ça reste ce vin, entre guillemets, ce petit vin glou-glou, comme on dit, qui n'a pas prétention à être un énorme cru, mais qui, normalement, lorsqu'il est bien fait, et on en trouve, donc pas tripatouillé avec des levures aromatisantes, peut donner un côté très gourmand et friand qui est assez agréable. Voilà, alors surtout, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, on a quand même des bons millésimes, des millésimes qui sont un peu plus chauds que ce qu'ils n'ont été, et c'est le cas encore de cette année.
Et donc le vin meilleur.
On a un vin qui s'est amélioré, et franchement, un petit coup de Beaujolais Nouveau entre amis, ça reste sympa.
Et toujours très bien. Avec modération.
Mais avec modération et surtout en respectant la distanciation pendant le confinement.
Chacun sa bouteille.
Bouteille. Alors dites-moi Stéphane, je crois que c'est vous qui allez avoir le mot de la fin comme d'habitude. Oui, mais... Avec aujourd'hui une expression qui ne vous ressemble pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le grand chic aujourd'hui.
Oui, on va aller à la selle pour découvrir les origines de cette expression. Génial. Mais vous pouvez prendre un vieux numéro de Paris Match si vous voulez.
Oh, oui, en plus c'est dans le groupe Lagardère, c'est parfait, j'en prends quelques-uns.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane, je vous sens un peu fatigué. Je sais que vous avez déjà beaucoup bossé aujourd'hui, d'autant que vous connaissez moins bien les magiciens que les Bourbons. Néanmoins, je vous serais gré de...
Ce sont aussi des magiciens, ils guérissaient les écrouelles.
Oui, mais surtout, ils ont réussi à garder le pouvoir pendant 1000 ans. Ça, c'est vraiment très fort comme tour de magie. Néanmoins, je vous serais gré de bien vouloir me livrer votre chronique, le mot de la fin.
Il y a un chèque?
Non, il n'y a pas de chèque, Stéphane. C'est inclus dans votre salaire. Hein. Stéphane, s'il vous plaît, ne soyez pas mesquin. Procédez avec cette belle expression. Allez à la selle.
Oui, mon cher Mathieu, vous m'avez toujours demandé qu'il y ait un lien entre l'expression et l'actualité, n'est-ce pas?
Oui, et là, quel est le lien alors?
Eh bien, c'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes.
Ça m'avait échappé.
Alors, bien sûr, votre première réaction de grand benêt de Mathieu Noël a été de sourire tel un collégien à peine pubère, mais c'est une journée importante, voyez-vous, car en 2018, un rapport de l'ONU confirmait que sur Terre, eh bien, 4,5 milliards de personnes vivent toujours sans toilettes.
Et c'est bien triste, un chiffre qui... Il est bon de rappeler, il est vrai, mais vous allez nous expliquer alors l'origine de l'expression « aller à la selle », parce qu'il y en a plein d'autres expressions, hein, comme pour dire « aller aux commodités ». Moi, je dis « aller aux commodités », je trouve ça plus élégant.
Oui, alors, évidemment, mais ne comptez pas sur moi pour me vautrer dans la vulgarité.
Non, ça, je me doute.
Avec d'autres expressions.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, je ne peux même pas, je les ai sous les yeux, mais je ne peux pas les dire, parce que j'ai une réputation d'élégance
Stéphane,
à tenir.
Stéphane, vous les avez sous les yeux, ces expressions, alors, il faut les dire aux auditeurs.
Pas, je ne peux pas.
Ils sont non, trop censurés.
Je ne peux pas.
Ah si.
Je ne peux pas.
Ah si.
Oui. Ah non, non, non. Attends,
bon, allez, je veux bien le faire. Ah.
Vas-y. Alors, moi, je vous dis celles qui sont possibles. Celles qui sont vraiment très vulgaires. Mais celle-ci est jolie.
Démouler un cake, peut-être.
Oh, voilà. Déposer des amis à la piscine.
Couler une dalle.
Allez,
avoir le 747 en bout de piste.
Avoir la taupe au guichet aussi.
Ah, la taupe au guichet, vous la connaissiez, elle était dans notre liste.
Non, non,
oh,
alors,
ça suffit. Bon. Allez à la selle. C'est
d'où vient l'expression qui est convenable, aller à la selle?
Oui.
La selle vient du latin cella. Et ça désigne tout simplement un siège, une chaise, mais aussi, d'ailleurs, la selle d'un cheval. À partir du XIVe siècle apparaît la selle aisée, une chaise percée réservée à l'élite. On parle aussi de selle nécessaire. Au siècle suivant, on dit donc aller à la selle et les selles deviennent donc ce qu'elles sont aujourd'hui. Nos rois de France, vous le savez, faisaient la chose en public. Ils étaient sur leur trône et puis quand ils allaient aux toilettes, ils allaient sur un autre trône, une chaise percée, tout en gérant le pays. C'est l'ancêtre de notre être avoir le cul entre deux chaises. En Angleterre, on dit parfois « go to the stool », aller au tabouret.
Ben oui.
C'est amusant parce qu'autrefois, quand on était accusé dans un procès, on était sur la sellette. La sellette, ce mot désigne un tabouret. En Roumanie, on aime bien l'expression « aller à la hutte », souvent au fond du jardin. Et en Italie, « andare a inciprirsi il naso », aller se repoudrer le nez.
Ah, ils sont toujours chics, les Italiens.
Oui, voilà. Ça, c'est l'élégance italienne. Bon, vous voyez, cet après-midi, on est resté quand même dans la norme de l'élégance.
Oui, surtout grâce à vous, Stéphane. Heureusement qu'Olivier Pouls était là pour nous livrer certaines expressions que vous n'osiez dire.
Ah non, je ne peux pas dans ma bouche.
Magiquement vôtre se termine, les amis. C'est le moment, Stéphane.
Le moment de quoi ?
D'entrer dans la boîte, Stéphane. Comme nous l'avons promis aux auditeurs, regardez, Pouls et Castello ont déjà branché leur scie. C'est juste un mauvais moment à passer, Stéphane, non ?
Mais non, je veux pas.
Vous vous défilez ?
Bah oui, je me défile.
Bon, alors parmi les vrais magiciens dont nous avons parlé cet après-midi, quel destin vous a le plus surpris, Stéphane ?
Écoutez, je suis très triste de l'histoire de Harry Houdini. C'est quand même idiot de mourir d'une péritonite.
Il est mort effectivement d'une péritonite à Houdini parce qu'on lui donnait des coups dans le ventre et qu'il voulait montrer qu'il était invincible. Mais il ne l'était pas. Comme quoi, les plus grands magiciens ne sont pas à l'abri de la mort. C'est sur cette pensée. C'est sur cette très
belle pensée très philosophique.
Stéphane, qu'est-ce qui nous attend demain ?
Eh bien, demain, on réunit des personnages qui sont comme vous, Mathieu, complètement toc-toc. Eh oui, mais eux, à la différence de vous, ils ont du pouvoir. C'est fou qui nous gouverne. Alors, bon, est-ce qu'il était fou ? Je sais pas, on le verra demain. Le roi Louis II de Bavière, le président Paul Deschanel, qui a transformé le septennat en mandat de 7 mois pour une sombre histoire de train et de pyjama. Et vous avez choisi notre ami Jair Bolsonaro, oui, l'actuel président du Brésil. Hein.
Oui, alors pour lui, on ne dira pas fou, Stéphane, on dira atypique pour éviter le procès, parce que je sais que nous sommes très écoutés au Brésil. Oui.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.